Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Zacharie, c'est un livre que on n'ouvre pas fréquemment, mais il y a des choses intéressantes. Alors, chapitre 4 et verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. On avait évoqué la fois précédente la puissance et la violence. J'aimerais aujourd'hui introduire une autre notion complémentaire, la puissance et la douceur. La puissance et la douceur. Et nous allons pour cela lire un deuxième passage. Et nous allons comprendre le secret de cette alliance entre ces deux antagonismes. Puissance, violence, douceur. Et dans Jean chapitre 3, verset 28, dans un premier temps, Jean répondit, verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné venant du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé vers lui. Et nous passons au verset 30, c'est sur ce verset que nous méditerons entre autres. Il faut qu'il croisse, il faut que Jésus-Christ, Christ croisse et que je diminue. Voilà. Les choses sont situées. On avait évoqué la fois précédente de la puissance de la tentation, mais que dire de la tentation de la puissance? C'est très interpellant comme sujet. Et nous avions parlé de que Dieu est tout puissant. Et dans la Bible, c'est partout. Cette notion de toute puissance de Dieu. Nous avions également apporté la pensée sur la soif de puissance des hommes. C'est peu dire, hein? Et dans tous les domaines, et nous n'avions pas exclu le pouvoir religieux. On avait parlé d'Israël. Et dans notre monde, tel que nous le connaissons, tel que tous les temps, ont manifesté cette soif et cette avidité. Alors, dans notre monde, je dirais qu'il faut être fort et puissant, sinon on n'est rien. Je pose les bases de rappel. On sait qu'après la Pentecôte, et je reviens un tout petit peu sur le message précédent, Dieu va prendre de gros risques avec les hommes, avec ses créatures. Il va leur fournir, il va leur déléguer, il va leur léguer l'arme stratégique que nous trouvons dans Actes chapitre 1er où il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez voir ce qui va se passer, vous serez mes témoins. » Mais un témoignage puissant, pas seulement un témoignage en parole, mais un témoignage en parole confirmé par la puissance. Et on en sait ce qu'il en est, puisque nous sommes là aujourd'hui. La difficulté n'est pas dans la réception, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, mais dans le bon emploi et dans la gérance de cette puissance d'en haut. Alors, il y a beaucoup à dire, naturellement, et on va y revenir. Et quand Dieu a donné cette puissance à l'Église, est-ce que l'homme, est-ce que le chrétien, est-ce que les serviteurs de Dieu n'allait-il pas en perdre la tête ? Nous sommes des vases d'argile et nous sommes là les dépositaires d'un trésor infini. Nous savons que cette puissance a donné à l'Église primitive l'impulsion et le dynamisme en dépit des pires épreuves et des oppositions que les premiers chrétiens ont connues. Cette puissance est restée la même à travers toute l'histoire de l'Église dans les siècles, mais il y a eu toujours une confrontation, il y a toujours eu un jalonnement entre cette puissance extraordinaire qui descend du ciel, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de tribulations, de persécutions, beaucoup de choses difficiles. Et je voudrais attirer votre attention sur une remarque, c'est que succès et tribulation marchent de pair. Et ça, c'est voulu par Dieu. Vous savez, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre. Il ne nous a pas retirés des mains de l'adversaire pour que nous soyons, que nous nous perdions entre les mains du Saint-Esprit. On le comprend et vous suivez ma pensée. Car il n'y a rien de pire que la puissance sans limite ni contrôle. Et Paul prend bien le soin, quand il parle des dons spirituels, de donner toutes les recommandations dans la manière dont nous abordons, dans la manière dont nous utilisons, dans la manière dont nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour que ça ne devienne pas quelque chose, eh bien, qui soit une imposture et même une discréditation du témoignage à Jésus-Christ et du témoignage de l'Évangile. Et cela pour nous éviter de tomber dans la convoitise, dans la suffisance et dans l'orgueil. Et j'ajouterai au mot orgueil spirituel, s'entend. Succès et tribulation. Donnons quelques mots. Je dis que c'est le frein préservateur que Dieu est donné. À chaque fois que l'homme, revêtu de la puissance de Dieu, a voulu distancer, je mesure le terme que j'emploie, distancer l'auteur et le donateur de cette puissance, entendez par là le Seigneur, son égarement a été sanctionné par de cuisantes remises en garde, allant parfois jusqu'au désastre spirituel. On se souvient d'Israël. Et tout simplement, l'écroulement de sa foi. C'est Dieu qui est maître et qui est Seigneur. Il est donateur et dispensateur. Vous savez que dans l'histoire des dons spirituels dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens, il nous est dit que c'est le Saint-Esprit qui les dispense comme il veut. Hein, comme il le veut. Alors c'est vrai qu'à travers tous les temps, l'homme a voulu être puissant sur la terre d'une manière ou d'une autre, politiquement, par le talent, par l'art, enfin toutes sortes de choses. Mais il a trouvé un filon extraordinaire, parce qu'il y a une garantie formidable qui va avec. C'est le religieux, voire même le spirituel, parce qu'il y a le nom de Dieu dedans. Alors avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous connaissez David. Avec Dieu, si nous avons Dieu avec nous, mais qui sera contre nous? Et on sait fort bien que lorsqu'on y regarde un peu de plus près, que combien au nom de Dieu des choses, par la puissance, y compris la puissance de feu des armes, au nom de Dieu, on a voulu dominer le monde et écraser. Et de dire, eh bien voilà, nous allons prouver que Dieu existe, que Dieu est avec nous, qu'il n'est pas avec les autres, il est avec nous forcément. Pas possible qu'il soit avec les autres. Je voudrais simplement faire un rappel, pour que nous le suivions dans notre méditation. C'est que la foi nous enseigne la parole de Dieu, déclenche la puissance. Tout ce que vous demanderez avec foi, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'Évangile est rempli de cette notion. Je rappelle, la foi déclenche la puissance et la met en action. Si vous aviez un peu de foi, nous dit Jésus. Alors c'est vrai que c'est exaltant, c'est formidable, c'est dynamisant, c'est extraordinaire. Et nous disons amen à cela, parce que nous sommes des chrétiens charismatiques, chrétiens de l'Évangile, et nous savons ce que ça veut dire. Mais il y a toujours un équilibre à tenir, comme notre maître est le parfait modèle de l'équilibre. Alors il nous enseigne. Dans certaines euphories et ivresses provoquées par le succès, par la puissance si vous aimez mieux, Dieu veut encore montrer qu'il est maître et qu'il est dispensateur de la puissance et qu'il ne fait rien de mieux en coupant, excusez-moi l'expression, elle est un petit peu triviale, mais en coupant les robinets quand il nous voit surexcités et exaltés. Un jour, Jésus a dit à 70 de ses compagnons, « Je vous envoie, vous allez guérir les malades. Vous allez marcher sur la puissance des serpents, enfin j'en passe. Vous allez ressusciter des morts. » Ils sont partis. Quand ils sont revenus, quelques jours après, ils n'étaient plus à tenir. Hein. Jésus leur a dit, « Venez au repos maintenant. » Il n'a même pas eu le temps de manger et tout ça. Et Jésus leur dit, « Calmez-vous !» Parce que le but, il n'est pas là. Le but, c'est pas que vous marchiez sur la puissance de l'ennemi, c'est pas que vous ressuscitiez les morts et que vous guérissiez les malades, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est le même texte, hein, vous retrouverez, je cite de mémoire, mais c'est Luc chapitre 10. Alors, quelquefois, ça nous exalte et nous pouvons être surexcités. C'est ce qui s'est passé un beau jour à Israël, quand je ne sais pas dans quelles circonstances, mais Ils pleuraient, c'est au chapitre 44, je restitue tout simplement, et au verset 10, il est dit ceci, parce que, après avoir été super excité, quelquefois on est super déprimé, ça peut arriver quelquefois. Vous savez, Élie, c'est ce qui s'est passé, après le mont Carmel, il est allé se réfugier dans le désert parce qu'il n'en pouvait plus, hein. Non pas parce qu'il avait vu des choses extraordinaires, mais il ne comprenait plus. Hein. Mais quelquefois ça va très haut et ça va très bas, ce qui compte c'est la ligne médiane, il faut rester au milieu. Et ce qui s'est passé pour Israël, Israël va pleurer, parce qu'elle a perdu sa puissance, figurez-vous. « Cependant, tu nous repousses, dira Israël à Dieu. Tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. » C'était tellement formidable dans le temps, on avait des victoires. « Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes à une petite valeur. Tu fais de nous un objet de preuve pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. » Etc, etc. Israël pleure parce qu'il n'a plus de puissance. Dieu semble avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, fermé les robinets. Et pourtant, c'est un peuple de puissance, c'est un peuple qui a vu la puissance, c'est un peuple qui a vu le prodige, Israël. Formidable. À vouloir prouver Dieu par la réussite, par le succès, par la puissance, et uniquement par ces moyens-là, un jour où rien ne se passe. Dans l'épreuve, dans le désert, où Dieu n'intervient pas, et quand bien même on commande à Dieu qu'il nous obéisse. Ah oui, j'ai entendu ce genre de prière parmi les chrétiens. Seigneur, tu dois exaucer, tu dois bénir, parce que ce n'est pas possible autrement. Je ne sais pas comment vous réagissez, mais il y en a un qui doit nous donner de lui obéir, c'est lui qui donne, ce n'est pas nous qui donnons. Alors, bien sûr, tout ça, ça amène toutes sortes de fantaisies. Alors on s'en prend à douter de lui. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? T'es parti, t'es plus là, tu dors, tu sommeilles. On en arrive presque à la prière des 450 prophètes de Baal, vous savez, sur le mont Carmel. Vous connaissez votre Bible, alors je ne rentre pas dans les détails. Mais alors on s'en prend à douter de lui, et on dit, Seigneur, mais où est ta puissance? L'Église d'aujourd'hui, l'Église du 21e siècle. Hé, qu'est-ce que l'on dit? Mais Seigneur, où est ta puissance de nos pères? Où est la puissance d'antan? Où est la puissance d'autrefois, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais? Où est ta puissance? C'est l'heure de la crise de conscience et de la crise de confiance. Et là, on se dit, mais peut-être que je me suis fait des illusions. Et comme on a cette démangeaison de vouloir produire ou de vouloir prouver Dieu par le succès, par la puissance et par toutes sortes de miracles et d'extraordinaires et de surnaturels, c'est pas Dieu qui va faire, c'est nous qui allons fabriquer des choses. Et là, on tombe dans l'artificiel à l'appui de fausses doctrines. Ça s'est vu, hein? Et ça se voit encore, malheureusement. Avec son cortège de découragement spirituel, il y a nombre d'enfants de Dieu qui, quelquefois, s'ennuyant dans l'église, se sont dit, je vais aller voir ailleurs. C'est leur droit, hein, ils sont libres. Hein. Enfin, ils sont libres, oui, Et ils ont été, ils se sont donné toutes sortes de docteurs, et ils se sont nourris avec des friandises de fausses doctrines. Et une chose que je peux constater après des années de ministère, c'est que certains ne sont jamais revenus. Mais ceux qui sont revenus, ils sont revenus dans un état de déprime et de découragement spirituel. Eh oui, ils savaient plus où ils en étaient rendus. Ils savaient plus ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui venait de Dieu ou ce qui venait d'ailleurs. Ils savaient plus du tout où ils en étaient rendus. C'est triste. Ils sont tombés, ce qu'on pourrait appeler, dans un vide atroce, dans l'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais peut-être que Dieu pourrait leur répondre, mais pourquoi toi tu m'as abandonné ? Pourquoi tu n'es pas resté dans la foi, dans la patience ? Même lorsque tu traverses le désert et l'épreuve, même lorsqu'il n'y a pas un souffle devant, je ne te demandais pas d'aller courir de droite et de gauche, je te demandais tout simplement de faire confiance, jusqu'au moment où moi je suis encore capable de te montrer que malgré le silence et malgré bien des choses qui te déconcertent, je suis encore avec toi, je suis encore là. Et je suis encore capable de faire des miracles et de faire descendre le feu du ciel. Oui, mais on ne sait pas attendre. Le problème, c'est qu'on est tellement impatient. Alors, on a du mal quand même, il faut bien le reconnaître, on a du mal à supporter l'expérience de l'impuissance. Je prends le contre-pied maintenant. Vous savez, moi je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à rester dans vos églises, même s'il ne se passe rien. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Même s'il ne se passe rien. Ouais. Ah, on aimerait tellement avoir un souffle qui nous fasse du bien, qui nous dynamise. On aimerait bien avoir un peu d'air frais, Seigneur. Ben oui, mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des temps forts et des temps faibles. Il y a eu des temps hauts et des temps bas. Eh oui, et c'est comme ça. Mais des frères et des sœurs ont été fidèles. Vous savez ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là ? Ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas maugré. Ils ont fait la chose qui était la plus positive qui soit, ils ont prié. Mais Seigneur, t'entends jamais nos prières, ça fait des années que je te prie pour qu'il y ait un souffle là, ici, dans notre région, dans notre ville. Et pourtant, eh bien vous savez, le Seigneur peut nous surprendre. Parce que il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et quand on veut mettre la main à la pâte, à la place de Dieu, je peux vous dire que ça fait toujours du mauvais résultat. Laissez-le faire. Et c'est une belle école de patience en ce qui nous concerne. Il y a un paradoxe que j'aimerais soulever, c'est que nous croyons en un Dieu et dans un livre qui vante la puissance. Et Dieu est un Dieu puissant et la Bible est un livre de puissance. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et nous devons faire l'expérience de la puissance. Nous sommes confrontés avec, nous avons la formule, nous pourrions dire, nous avons le secret entre les mains et ça ne bouge pas actuellement. C'est comme ça. Alors on va s'inspirer de ceux qui nous ont précédés. Et vous connaissez Pierre et Paul, hein ? Des petits apôtres, petits. Ils n'ont pas vu grand-chose. Ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Et Pierre et Paul. Pourtant, je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas de plus fidèles serviteurs qui ont exercé la puissance de Dieu quand même ces deux-là. Hein. Pierre, Paul et... À leur actif, ils ont chacun une résurrection, hein. C'est pas mal, enfin, à leur actif. Bon, je retire ce que j'ai dit, mais vous savez que quand même, vous pouvez dire, j'ai vu quelqu'un ressusciter en tous les cas. Hein. Toutefois, avant d'arriver à ce haut degré de service, ils ont dû être convaincus d'impuissance totale. Pierre, lorsqu'il s'est retrouvé le nez dans la poussière, avec son reniement, honteux reniement, et Paul sur le chemin de Damas, lui qui croyait tout connaître, eh bien il est tombé de son cheval. Et le brave Paul qui voulait mener le monde entier à sa façon de pharisien et de juif, eh bien il a été conduit un jour par un pauvre chrétien ou un simple chrétien, il a été rendu aveugle et il a été emmené par la main, lui qui voulait emmener tout le monde, c'est lui qu'on a emmené. L'expérience de l'impuissance. Pour être rempli, et vous le savez, je ne suis pas le seul à le dire, il faut être vidé. Tout simplement, il faut être vidé. Et je voudrais dire une chose importante dans notre message ce matin. Dieu ne confie sa puissance qu'à ceux qui ont été exercés par l'épreuve de l'impuissance. Vous savez, je crois qu'il y a une chose que nous avons à comprendre. C'est que Dieu, si vous voulez que le Seigneur se serve de nous, eh bien, il va falloir que nous passions par l'école de la déception. L'école où nous allons parfois connaître l'humiliation. Il est bon d'être humilié dans sa jeunesse. Vous connaissez, hein, Lamentation de Jérémie. Il est bon que, quelque part, eh bien, avant que nous ayons une autorité authentique de Dieu, d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous connaissions véritablement ce que c'est que le désert. Mais le désert, Israël y est passé. Jésus est passé aussi par le désert. Et je vois pas pourquoi il y aurait un chemin différent pour d'autres. Je dis bien que tous les uns et les autres, nous avons été confrontés avec l'impuissance pour nous vider de nous-mêmes. Et l'apôtre Paul l'a bien compris parce qu'il écrira ces mots, mais qui peut être suffisant pour ces choses? C'est qu'il a bien compris la leçon. Vous savez, nous avons un immense besoin de serviteurs de Dieu. Mais nous avons besoin de serviteurs de Dieu qui soient humbles, modestes et discrets, et non pas des gens qui se mettent en avant. Parce que si quelqu'un doit être mis en avant, c'est Jésus et sa parole, c'est pas nous. Ouais. Et même si nous sommes dotés de dons, je crois que nous devons toujours rester dans l'ombre pour que Jésus soit dans la lumière. Parce que si nous sommes dans la lumière, Jésus sera dans l'ombre. Alors nous allons en venir maintenant, puisque je vous parle de lui, de Jésus, on va en venir à la référence suprême, la personne de notre Sauveur. La puissance divine n'a jamais été aussi glorieuse que lorsqu'elle a été portée dans le réceptacle de la douceur et de l'humilité dont le Christ fait homme et l'exemple parfait. Il a été, nous pouvons dire, l'incarnation de la puissance par la douceur. Il le dit lui-même dans Matthieu, chapitre 11, verset 30. « Je suis doux et humble de cœur. » Que chaque chrétien, que chaque enfant de Dieu, que chaque pasteur, chaque croyant puisse dire « Seigneur, donne-moi d'être doux et humble de cœur comme tu l'es, Seigneur. » Et vous allez voir que ça va changer tout. Jésus n'est pas venu comme le triomphateur écrasant le monde de toute la puissance qu'il avait reçue de Dieu. Mais il nous est simplement rappelé dans Philippiens cette parole, « Il s'est humilié jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. » La croix, c'est le secret de la puissance. Vous l'avez souvent entendu, mais il faut le dire encore. La croix, c'est le secret de la puissance. Et pourtant, c'est la chose la plus horrible, la plus acceptée qui existe au monde. La croix. Quelqu'un qui est crucifié, il a les mains liées, les pieds liés. Il est attaché, il est cloué. Il n'a plus aucune possibilité. Il fait face, finalement, à la mort qui approche, mais qu'est-ce qui lui reste? Encore peut-être la bouche, la parole pour crier, c'est tout. Mais autrement, il ne peut plus rien faire. C'est l'impuissance. Le triomphe de la vraie puissance selon l'esprit de l'Évangile, c'est dans Matthieu, au chapitre 12, écoutez bien, cette parole, vous l'avez lue et relue, mais quand elle est donnée prophétiquement en ce qui concerne celui qui viendrait, c'est-à-dire le serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, il est dit ceci, « Je mettrai mon esprit sur lui et il ne contestera pas. Il ne criera pas, personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume. » Ça, c'est la puissance. Version Christ. La puissance vraie sert à relever. La vraie puissance sert à relever et non à écraser, à éblouir ou à séduire. Les puissances que nous connaissons dans le monde, c'est tout le contraire. Ouais. Séduire pour tromper, Prenons l'exemple d'un imposteur que nous avons, dont le récit nous l'avons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 9. Il nous est dit simplement comme cela, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. » Il y a quand même un rapprochement entre tout ce qui est occulte et puissance, puissance et occultisme. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » C'était quand même pas n'importe qui, il ne se prenait pas pour n'importe quoi. Et il nous est dit que le peuple qui l'environnait, l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Et je vais un peu plus loin, il nous est dit que il s'est fait baptiser. Enfin, il a fait semblant d'être converti. Il s'est fait baptiser et un peu plus loin, il nous est dit qu'il ne quittait pas Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges que Philippe opérait. Deux puissances, deux sources de puissance. Et il s'est dit, moi, je vais faire semblant de me convertir et à ce moment-là, je vais recevoir la puissance de Philippe. Je vais recevoir puissance, ce qu'il appelle le Saint-Esprit. Et là, je vais gagner de l'argent. Je vais en étonner d'autres, naturellement. Attention aux puissants séducteurs des derniers temps. Ils existent, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Balaam et puis et consorts. Non. C'est pas seulement dans le Nouveau Testament avec Bar-Jésus ou Élimas, dans le livre des Actes des Apôtres, ou Simon le magicien. Ils n'ont jamais été aussi prolifiques, ils n'ont jamais été autant présents dans notre monde aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi présents, même dans l'Église de Jésus-Christ. Faisons attention, j'ose le dire. On en a raconté certains spécimens, je peux vous dire que ce n'est pas triste. Des gens qui ne sont pas convertis. Des gens qui n'ont qu'une envie de suivre Jésus et de confesser Jésus pour recevoir de la puissance. Certains même venaient de l'occultisme, avaient été, par la grâce de Dieu, retirés de l'occultisme, de l'enfer, on pourrait dire. Et là, parce qu'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, eh bien, le diable les a récupérés. Et qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait un occultisme évangélique. Parce qu'ils se servent de la Bible, ils se servent du nom de Jésus, ils se servent des phrases, de tout ce qu'il y a, des versets bibliques, etc. Et attention les chrétiens, parce que si vous n'êtes pas trop assis sur les fondements de la parole et que vous n'êtes pas nourri finalement de la connaissance et des avertissements qui sont nécessaires, eh bien il y en a beaucoup qui sont partis d'en les suivre. Des Simons de magiciens, je peux vous dire qu'il y en a. Mais ils ne cherchent qu'une chose, ils cherchent la puissance pour avoir de l'argent. La gloire, si vous voulez. Non mais on a vu tout ça. Alors ces fameux faux auront-ils le caractère de Christ? Auront-ils les sentiments de Christ? Auront-ils les intentions de Christ? Quelques exemples de la puissance de Christ. C'est d'abord la non-résistance de Jésus face à ceux qui viennent l'arrêter. Vous savez, le jour où, au moment de la passion, à Pierre et à son épée dérisoire, puissance et violence... Jésus va répondre à Pierre, « Penses-tu que je puisse faire appel, que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges ?» Alors ta petite épée là, tu peux la ranger parce que ça ne sert à rien. Enfin, on va de la ranger et Pierre il a quand même voulu couper l'oreille à quelqu'un. Parce que ça c'est plus fort que nous. Ouais. Jésus renonce à la puissance de se défendre. La puissance de Christ encore, à la suite de ses plus grands miracles, Jésus recommande le silence afin de ne pas provoquer l'excitation et la griserie du succès. Ne le dites à personne. Sagesse, Sagesse. Puissance de Christ encore, Jésus a décliné l'invitation séduisante, après avoir multiplié les pains pour des milliers et des milliers de personnes, d'être intronisé roi. Vous connaissez, il y a un petit verset. Ils ont voulu le prendre pour le monter sur la montagne et le faire roi. Jésus a dit, pas question, moi je redescends. Enfin, c'est moi qui dis ça. Mais c'est comme ça que ça a dû se passer. Il a rejeté l'exaltation du pouvoir. le meilleur témoignage de la puissance de Christ contrôlée par la douceur, reste la deuxième tentation au désert, cette fois, non une incitation venant des hommes, mais une incitation venant de Satan lui-même. Est-ce que les hommes vous applaudissent ? Si vous avez quelques charismes, quelques succès, etc., ils vous disent « Ah, tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es le plus intelligent, tu es le plus grand pasteur, tu es le plus grand banquier. » Voilà. Bon. Mais quand ça vient, mais derrière, il peut y avoir aussi une reprise en sous-main. Quand vous avez le diable qui vous dit « Mais tu sais, quelquefois, après une bonne déprime, une sous-estimation, il va vous donner un bon petit coup de poutre pour être sous-estimé. Il va vous dire « Tu sais que tu es quand même le meilleur. Tu sais que tu es quand même pas mal. Oh, t'as pas remarqué que tu étais pas mal. Tu t'es regardé déjà. Ben, tu pourrais faire des choses extraordinaires. Il ne faut pas que tu restes comme ça. C'est pas possible. » Alors, c'est précisément ce que Jésus a connu. Dans la deuxième tentation, vous la connaissez, hein. Et une voix subtile, infernale, diabolique, va lui souffler à l'oreille. Il nous est dit qu'il lui montra tous les royaumes de la terre et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données. » Moi, chaque fois que je lis le dernier mot, je dis « menteur ». Elles m'ont été données. Je les ai volés, je les ai usurpés. Mais vous savez qu'il est menteur, c'est pas possible. Je te donnerai cette puissance et cette gloire. Jésus, conscient de sa qualité de fils de Dieu et de la mission qui est la sienne, de sa qualité de fils de Dieu en puissance, puisqu'il est dit « Mais si tu es le fils de Dieu », ce que Satan propose à Jésus, c'est de faire éclater sa propre puissance, d'user de son pouvoir pour se satisfaire d'abord lui-même au prix de la désobéissance à Dieu. Et c'est bien ça le grand piège. Quand il lui a dit « Mais tu sais, tu as faim, ah, ça fait des jours que tu ne manges pas, ça fait 40 jours, hein. Je ne sais pas si on aurait tenu le coup, nous. Hein. » Mais toujours est-il que, si tu vois ces pierres, eh bien, au lieu de continuer à souffrir là comme tu es, eh bien, tu dis tout simplement à ces pierres qu'elles se fassent du pain, et puis maintenant ton problème est solutionné. Eh bien, c'est exactement le même remède. Hein. C'est la même chose qui se passe pour chacun d'entre nous. Tu souffres, mais t'as qu'à sortir de ta souffrance. Il y a tellement de moyens de sortir de sa souffrance. Quelquefois même, tu sais, même des chrétiens ont été embarqués dans certaines aventures qu'ils l'ont regretté après. Hein. Ben, tu sais, hein, si les médecins ne peuvent pas guérir, si le pasteur en t'imposant les mains, il peut rien faire, alors... Moi, je connais quelqu'un, tu sais, il peut t'arranger ça bien, tranquille, plus de souffrance, plus de douleur. Méfiez-vous donc de ce genre de choses. Vous aspirez à la gloire ? Oh, bah, bien sûr. Vous savez, il y en a qui ont compris le système avec le diable. Hein. Et ils ont fait des pactes. Et ils ont eu, ils ont obtenu. Mais attendez, hein, c'est au prix du salut de leur âme. Hein. Parce qu'il n'y a pas de cadeau, là. Il n'y a rien du tout qui passe gratuitement. Jésus a rejeté cette offre de la puissance dévoyée pour privilégier l'obéissance, la soumission à son Père, quand bien même cette obéissance lui coûte la souffrance, le mépris, l'oubli et la croix. Parce que ça a été jusque-là. Même dans les derniers moments à Gethsémané, « Oh Seigneur, si cette coupe peut être retirée de moi, non Seigneur, je veux faire ta volonté. » Toute recherche de puissance en dehors de l'Esprit de Dieu, et je rappelle le texte d'origine que nous avions, ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur, par mon esprit. Nous ne fonctionnons pas avec notre âme, une âme religieuse, mais nous fonctionnons dans l'esprit, avec l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit du Seigneur. Alors, toute recherche de puissance, alors à ce moment-là, en dehors, est une désobéissance qui a sa cause, sa source, pardon, dans Genèse, chapitre 3, versets 4 à 5, et je rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que c'est très vieux, il faut en garder le souvenir. Le diable vient, puisqu'il s'agit de lui. Il dit à nos premiers parents, « Vous ne mourrez pas, être puissant par la longévité éternelle. Vous ne mourrez pas. » Deuxième chose, « Vos yeux s'ouvriront connaissant le bien et le mal. Vous serez puissant par la connaissance du bien et du mal. » Et ce qu'ils vont connaître, c'est le mal. Le bien va disparaître. Enfin, en partie. C'est tout simplement, à retenir, et vous serez, troisième proposition, vous serez comme des dieux, vous serez puissants comme Dieu. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la doctrine du New Age, le Nouvel Âge, c'est ça? Vous serez puissants comme Dieu. Ambition de la gloire, telle est la substance de la puissance qui règne sur la terre des hommes. Mais nous avons cette parole qui résonne encore et qui fait encore tout son travail et son œuvre dans le cœur des chrétiens que nous sommes, mais par mon esprit, dit Dieu, mais par mon esprit, avec tout ce que cela implique, esprit qui s'abaisse, esprit qui s'offre, esprit qui se donne et esprit qui se sacrifie, l'évangile, c'est pas autre chose. À l'exemple de notre maître. Je termine. La voie de la puissance spirituelle, nous l'avons lu dans notre évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui dit cela. Et vous savez que Jean-Baptiste était un homme puissant. Mais à une petite nuance, on en a parlé dans une réunion dernièrement ici. On ne peut pas dire qu'il était puissant en œuvre et en parole. Il était puissant en parole, mais pas en œuvre. Parce que lui, Jésus nous dit qu'il était le plus grand de tous les prophètes. Même ceux qui sont nés de femmes, enfin, comme tous. Jamais il y a eu un aussi grand prophète que Jean-Baptiste et il n'a jamais fait de miracle. Il était puissant en parole, tout simplement. Et notre Jean-Baptiste rappelle et nous dit, il faut qu'il croisse, il faut que Jésus-Christ croisse en moi, et moi, que je diminue. Refuser de recourir à la puissance a conduit Jésus tout simplement à la croix. C'est à la croix que se livre la bataille entre deux principes rivaux, antagonistes, la puissance et la douceur. La puissance et la douceur. Et la douceur, je voudrais quand même le rappeler, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la vraie puissance. C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est ce qui règne dans le ciel. La douceur. La croix est le symbole d'une puissance nouvelle, d'une force invisible et invincible, celle de l'amour, qui ne cherche jamais à s'imposer, qui cède au lieu d'écraser. C'est la douceur, ce que Jésus nous enseigne. Je suis doux et humble de cœur. Ma personne, ma personnalité, ma mentalité, ma parole, eh bien, elle est ainsi. Et combien nous savons que Jésus a été puissant par la douceur. Et la douceur, c'est l'amour. Cette douceur qui est un fruit de l'esprit. Travaille en profondeur, d'apparence faible, c'est pourquoi elle est méprisée dans notre monde, est capable de briser, de plier, de confondre toute autre puissance, toute autre intervention humaine et même diabolique. Ce que je voudrais rappeler en substance, en ce qui me concerne et en ce qui vous concerne probablement, moi le Seigneur, il ne m'a pas converti par la force et la puissance, il m'a confondu d'amour, tout simplement. C'est comme ça que j'ai baissé les armes. On l'a entendu à travers une belle prière ce matin. Seigneur, tant que je voulais relever la tête, mais c'est le Seigneur qui nous a amenés à baisser les yeux devant lui en disant, mais oui, je ne suis qu'un pécheur et j'ai besoin de ta grâce, tu es la vie, Seigneur. Mais je sais qu'en toi j'ai trouvé bien toute la force de ton amour. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de fléchir le genou devant toi. Pas par la puissance, hein. Regardez toutes les religions qui ont voulu faire fléchir, et aujourd'hui toutes les religions modernes de notre monde, le fait religieux de notre 21e siècle. Mais ça se passe avec quoi? Ça se passe avec des explosifs, ça se passe avec des bombes. Mais on a fait la même chose, nous, en Europe, hein. Pendant des siècles et des siècles, alors faisons attention de ne pas faire la morale aux autres, hein. Simplement une pensée à vous livrer pour la réflexion. Un témoin a traversé les temps, a traversé le temps. Je vous le donne à juger. Qui des deux a traversé les siècles? Est-ce que ce sont les armées de fer et d'airain de César, qu'on a appelé la Pax Romana? ou autre dictateur, ou est-ce que c'est le Christ et son sermon sur la montagne? Eh bien, de César et de ses lauriers et de ses légions, il ne reste pas grand-chose. Hein. Quelques vestiges, c'est tout. Mais par contre, de Jésus, il reste la vie. Il reste la vie, il reste sa parole. Il reste que des millions et des millions et des milliards d'hommes ont entendu sa parole. Parce qu'il était doux et humble de cœur. Et ce n'était pas la guerre qu'il prenait. C'était tout simplement l'amour, le contraire. Vous savez, il y a quelque chose de formidable dans le sermon sur la montagne. Quelque chose d'inouï, quelque chose de sublime dans les principes. Alors, heureux les débonnaires. Vous êtes débonnaires? Vous n'osez pas me répondre. Si vous êtes débonnaire, je voudrais vous dire une chose. Si vous êtes doux, eh bien vous hériterez la terre. Vous vous rendez compte? Et en prime, vous aurez le ciel pour vous. C'est moi qui l'ajoute. Hein. Puissance et puissance, par mon esprit, dit le prophète, nouvelle méthode de conquête éternelle, irrésistible, la seule puissance qui ne fait pas de mal, cette puissance qui guérit et qui jamais ne blesse. C'est ça. Alors Jean-Baptiste, je termine avec lui. Jean-Baptiste, il dit, il faut que je diminue. Alors, on se le dit, hein, quelquefois, moi je me le dis à moi-même, j'ai dit, Seigneur, il faut que je diminue. Mais c'est pas facile. Je ne sais pas comment vous rencontrez l'obstacle. Quelquefois, je dis, Seigneur, il y a des choses que j'aspire. Il y a des choses dans mon tempérament, dans mon caractère, dans mes faiblesses. Je dis, Seigneur, je n'y arrive pas. J'arrive une fois et puis après, ça... Ah Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Alors il faut que toi tu croisses, que tu prennes toute la place dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma volonté, en tout Seigneur. Il faut que je diminue, mais toi tu prennes de la place. C'est-à-dire, il faut que de mourir à l'usage de la force naturelle et instinctive de mon humanité, mais mon moi a soif de puissance. Toujours la même chose, il a soif de vouloir être quelqu'un, il a soif de vouloir faire la démonstration, même te prouver, Seigneur, mais tu ne m'as jamais demandé de te prouver à qui que ce soit. Tu es capable de te prouver tout seul. Alors il faut que je diminue et que toi, Seigneur, tu croisses en moi, que tu croisses par la douceur et l'humilité qui est la tienne, dans ton amour, dans ton abnégation, et parfois il faut passer par la croix. Hein. Ça s'appelle le sacrifice, et ça, c'est pas évident. Parce que le seul pouvoir que Dieu va nous donner, la seule puissance, c'est précisément dans la faiblesse. Vous connaissez la belle histoire de Paul? Ah, il avait tout compris, lui, Paul. Hein? Seigneur, je voudrais bien que tu m'enlèves cette écharpe dans ma chair, parce que qu'elle se nomme d'une manière ou d'une autre. Hein? Ce n'est pas forcément un problème de santé, ça peut être autre chose. Une pointe d'orgueil qui est toujours en train de vous tourmenter. Alors, il a dit, mais Seigneur, je t'ai prié 3 fois et puis tu ne m'as pas exaucé. Le Seigneur lui répond, il lui dit, mais écoute, mon brave, je t'ai appelé pour que tu sois mon serviteur. C'est pas pour que tu sois roi, tu seras roi, mais plus tard, pour que tu sois mon serviteur. Et sache une chose, mon brave Paul, eh bien, c'est que c'est dans la faiblesse que tu seras fort. C'est quand tu seras petit que tu seras grand. Et tant que tu voudras être grand, eh bien, tu resteras petit. D'ailleurs, il s'appelait Paul, en grec, ça veut dire petit. Enfin, il est devenu grand aussi par la reconstitution de sa personnalité spirituelle. Que l'Église de Jésus-Christ ait une volonté de puissance. Peut-être, mais jamais, jamais autrement que celle de celui qui en nous montrait l'exemple parfait et qui nous laisse encore cette parole. Je suis doux et humble de cœur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier.